Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on commence réellement l'année, en quelque sorte, puisque avec les fêtes et tout, il y a eu beaucoup d'arrêts. Et avec moi, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier tout ce qui concerne la vision globale de la réalisation des choses en laquelle nous avons foi. Je veux dire par là que nous devons réaliser en fait le divin, parce que nous disons que nous avons une émouna en Akadosh Baruch Hu. La signification de émouna, c'est la réalisation. C'est-à-dire comment est-ce que je peux réaliser le divin à travers mes actes, à travers mes pensées, à travers mes paroles, pour faire en sorte qu'il y ait plus de valeur divine sur terre. C'est ça le but en fait. Donc, tout le but, c'est une réalisation des degrés supérieurs dans ce monde inférieur, dans ce monde de la matière. Alors nous avons plusieurs degrés dans cette étude et aujourd'hui nous allons nous préoccuper de la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël fait partie de l'un des trois niveaux sur lesquels nous devons travailler. L'homme se trouve dans trois niveaux simultanément. C'est-à-dire il se trouve dans un temps bien précis, il se trouve dans un lieu bien précis, et il se trouve avec un degré d'âme qui correspond à ce qu'il est. Donc chacun de nous doit faire en sorte d'associer ces trois niveaux et de travailler, d'œuvrer dans ces trois niveaux. Degré d'âme, ça veut dire que chacun de nous a une attirance, a une faculté naturelle qui correspond plus à sa nature. Il y a des gens qui sont plus attirés par le côté mathématique. Il y a d'autres qui sont plus attirés par le côté littéraire. Il y a d'autres qui sont plus attirés par le côté artistique. Donc chacun a une qualité d'âme avec laquelle il doit utiliser pour décoder la même donnée qui arrive au niveau collectif Israël. Okay. Donner un exemple, la mitzvah de Tefilin, c'est une mitzvah qui a été donnée au collectif Israël. Israël a reçu la mitzvah de Tefilin en tant que peuple. Maintenant, moi en tant qu'individu, comment est-ce que je vais appliquer cette mitzvah? J'ai ma manière à moi. Nous avons tous la même mitzvah de base, mais ma manière à moi de la vivre est différente de la tienne. Ma pensée est différente, mon approche est différente, ma manière d'acheter les tefilines est différente. Je vais prendre des tefilines qui sont un petit peu plus à mon goût. Je peux éventuellement prendre des lanières qui sont peintes en noir dedans et dehors, et pas seulement dehors. Je veux une paire de tefilines qui soit écrite à tel texte, avec telle écriture et pas une autre. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai un côté qui m'attire vers ça. Et au moment où je poserai les tefilines sur moi, j'aurai des pensées qui sont complètement différentes des tiens, naturellement. Ça veut dire que la mitzvah, elle est collective, mais la manière de l'appréhender, elle est par rapport à moi-même. Donc chacun a son prisme, et par rapport à ce prisme-là, eh bien la même lumière arrivera d'une manière nuancée. Donc chacun de nous doit être nuancé par rapport à l'autre. Et aucunement le même que l'autre. C'est-à-dire que oublier l'idée que tout le monde doit être pareil. C'est faux. Tout le monde est différent par nature. Ce qui est pareil, c'est l'axiome de base. Akadosh Baruch Hu qui donne la Torah au peuple d'Israël. Mais à l'intérieur du peuple, nous sommes des individus et nous devons au contraire mettre en relief nos différences. Tout en sachant garder ces différences et savoir qu'elles sont complémentaires. Alors que moi je complète ce qui te manque et toi tu complètes ce qui me manque. Et chacun de nous, en réalité, dans l'ensemble, nous arrivons à réaliser le maximum de la même mitzvah. D'accord? Parce que moi tout seul, je ne peux pas réaliser la vérité. La vérité, elle englobe tout. Et comme moi je suis individuellement séparé, je ne peux pas dévoiler, c'est subjectif. Donc je dois m'associer à toi et à lui et à elle, et ensemble nous allons avoir beaucoup de facettes de cette même vérité, et on se rapprochera de plus en plus de cette vérité. Donc, moralité, nous devons mettre en place les différences, et c'est pour ça que nous faisons la Havdalah. Comment traduisez-vous le mot Havdalah? Ah, non, pas du tout. Havdalah, c'est différencier. D'accord? Distinguer. Sinon, ça aurait été Hafrada. Attention. Donc, on ne doit pas faire la Hafrada. Donc, on ne doit pas faire ni une Hafrada, une séparation entre Shabbat et les jours de la semaine. Chaz v'shalom. Mais différencier. Distinguer. Si tu sépares le Shabbat des jours de la semaine, que se passe-t-il? C'est la mort. Si tu sépares Israël des nations du monde, c'est la mort. Si tu sépares la Neshama du corps, c'est la mort. Mais tu dois différencier la Neshama du corps tout en étant dans le même organisme, en sachant les différences de chacun, les niveaux de chacun. Comprenez, c'est une nuance très importante. On ne sépare jamais, mais on fait des distinctions. Et ça, c'est une clé pour comprendre le judaïsme. Donc, le judaïsme, ce n'est pas un monde de séparation, mais un monde de complétude, où chacun complète, rajoute sa façon à lui, sa manière à lui, de la même mitzvah. Bien entendu, la mitzvah doit être la même, celle que nous avons reçue d'une manière objective du divin qui est descendu dans ce monde. On n'invente pas des choses. L'une de ces facettes-là, c'est le lieu. Et là, nous allons nous occuper du lieu aujourd'hui. Ce lieu, le lieu le plus adéquat, le plus correspondant à notre nature Israël, c'est la terre d'Israël. Maintenant, on va essayer dans cette terre-là de comprendre quelles sont les différentes manières, quels sont les différents accès de cette terre d'Israël. Qu'est-ce qu'elle cache en elle? Quelles sont ses qualités intrinsèques? Et qu'est-ce qu'elle nous offre? Et qu'est-ce que nous devons faire sur cette terre et dans cette terre?
Vous avez parlé de degrés de présence du
lieu. Trois. J'ai parlé de trois. Le lieu, le temps, donc l'espace, le temps, et l'homme. Tu as bien conscience que nous sommes différents les uns des autres. Donc selon celui que je suis, j'ai un autre accès. On est d'accord? La terre, la même chose. Selon l'endroit où tu te trouves, eh bien, l'accès est différent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il y a des différentes saintetés qui se dévoilent différemment selon les endroits sur terre. Et la même chose au niveau du temps. On est bien d'accord que le degré de lumière de Shabbat n'est pas exactement le même que le degré de lumière d'un jour normal, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des différences de dévoilement par rapport au temps. Donc, par rapport au temps, par rapport à l'espace et par rapport à l'homme. Aujourd'hui, nous allons donc plus préciser le degré du lieu, de l'espace. Donc, Eretz Israël, Shebechazon, Vehaniglet Lain. C'est un texte du Rav Harlap qui est tiré du livre Les sources de la délivrance, Ma'ayane HaYeshua, dans un livre qui s'appelle Meimarom, tout est écrit en haut, je vous l'ai écrit en haut. Donc, quel est le titre? La traduction d'abord, Eretz Israël, la terre d'Israël, Sheba Chazon, qui se trouve, vous avez ici des feuilles, fais-lui passer une feuille. Eretz Israël qui se trouve dans la prophétie, c'est-à-dire Eretz Israël au niveau prophétique, je vais le traduire avec des mots simples, Eretz Israël au niveau idéal, Vehaniglet la'ain. Okay, mettez une virgule avant Vehaniglet la'ain, c'est-à-dire et Eretz Israël qui est dévoilé à l'œil. Je répète, le Rav est en train de nous dire déjà dans le titre qu'il y a une différence entre la terre d'Israël au niveau idéal et la terre d'Israël que tu vois de tes yeux. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ça veut dire que les gens vont poser la question, mais tu me dis que la terre d'Israël, c'est extraordinaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors comment ça se fait que réellement, il se passe des choses qui sont complètement contradictoires? Eh bien, le Rav va traiter de ce sujet. Nous avons un degré d'Israël au niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau de l'être intérieur de la terre, et le niveau que les yeux voient, ici, concrètement. Encore une fois, je ne sais pas où est le véritable concret. Si le concret est à l'intérieur, ou est-ce que le concret est dans le superficiel extérieur? Et là, nous rentrons dans un sujet qui est très très important, de savoir comment appréhender cette terre d'Israël. Aïstaklut arazit. Quel? L'intérieur, c'est la neshama. C'est une vision avec des yeux de l'au-delà. C'est ce que Dieu nous dit sur Israël. C'est-à-dire ce que l'objectif lui-même, pas le subjectif que je suis, mais l'objectif. C'est-à-dire j'ai reçu une Torah, et la Torah me dit, donc la Torah c'est la parole divine, donc c'est une prophétie qui m'est adressée, et elle me dit que la terre d'Israël a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qualités. Donc pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu prévoit cette terre à ce peuple que je suis? Puisque c'est la donnée de la Torah. Donc je dois étudier cette donnée. Où est la correspondance entre Dieu et le peuple d'Israël précisément sur cette terre? Et pourquoi c'est cette terre et pas une autre? Haïstaklut arazit yodat eitev. La vision des secrets, raz, c'est les secrets. Donc la vision intérieure, profonde, des secrets, yodat eitev, c'est très très bien. Qui kolmachenigle la ain, elle sait que tout ce qui est visible à l'œil humain, et non elle a katse ha acharon sheba ma'ala, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et non elle n'est pas si ce n'est. D'accord? C'est une façon en hébreu de dire ce n'est que. D'accord? Je répète avec des mots simples ce que le Rav est en train de nous dire. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est en réalité un extrait et même le bout de l'extrait de la vérité. Autrement dit, la vérité est bien plus complète que ce que tes yeux sont capables de voir. Et avec quels yeux je peux voir ça? Avec les yeux de l'intérieur. Mais si tu vois, si tu ne vois qu'avec les yeux de l'extérieur, c'est-à-dire les yeux, les sens, que je possède au niveau physique, eh bien, je risque de me tromper très souvent dans ma vie, parce que mes yeux vont me tromper, vont me montrer ne ce que qu'une parcelle de la vérité qui, elle, est complète. Ve'ilu, ma'shelonigle, et donc le Rav continue, cependant, ce qui n'est pas dévoilé, le'ain abassar, aux yeux de l'homme, qui est fait en chair, de chair et d'os, ou harbe yoter mise le en shiur vekvul. C'est beaucoup plus que ton œil peut imaginer voir sans aucune commune mesure. Ça veut dire que les yeux de l'intérieur nous permettent de voir beaucoup plus loin que les yeux de l'extérieur. Quand je te dis par exemple de te concentrer, naturellement tu fermes les yeux. Pourquoi? C'est comme si tu te disais: les yeux avec lesquels je suis en train de voir me trompent. Maintenant, je te dis, concentre-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Tu te dis, je ne veux plus être trompé par mes yeux, je veux commencer à voir avec les yeux de l'intérieur. Cet élan naturel de l'homme, de fermer les yeux au moment où il doit se concentrer, c'est parce que intuitivement, il sent qu'il a d'autres qualités de vision qui sont beaucoup plus internes, et qui lui permettront de voir ce que l'œil superficiel n'est pas capable de voir. Pas par hasard que la traduction du mot aveugle en hébreu se dit celui qui voit mieux. Sagi Naor. Le voyant, pas le non-voyant. Le meilleur voyant. Comme ça on dit en hébreu. Ken. C'est justement. Parce, qu'est-ce que ça veut dire qu'il oublie le reste? Ça veut dire que les yeux l'ont préoccupé sur un point précis et qu'il a perdu en réalité la totalité de l'image. Quel est le piège en réalité de la vision extérieure? C'est que tu t'attaches à un détail. Et comme dans un appareil photo, lorsque tu fais zoom sur un détail, mais tout le reste devient flou. Mais c'est la même chose. Alors que quand tu fermes les yeux, tu as une capacité de vision globale qui est beaucoup plus proche de la vérité, car la vérité est globale. Quelles sont les lettres de la vérité en hébreu? Emet. Vous vous êtes aperçu de leur emplacement dans l'alphabet. Aleph, c'est la première. Taf, c'est la dernière. Et même, c'est exactement celle du milieu. Ça veut dire que la vérité, elle englobe le tout. Alors que si vous prenez le mensonge, quelles sont les lettres du mensonge en hébreu? Sheker, ce sont trois lettres qui sont collées dans l'alphabet. Shin, Kuf, Resh. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'une vision sectorielle des choses, et n'est une vision mensongère. Parce qu'elle te fait montrer en réalité trois lettres qui sont collées, mais qui n'embrassent pas le tout, qui n'englobent pas le tout. Donc forcément, tu es déjà dans le mensonge, dans l'erreur. Pour être dans le vrai, il faut avoir une vision du tout, de la grande image, et pas d'une pièce du puzzle. Ça, c'est un mensonge. De la même manière, quand tu veux mentir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un extrait de la vérité et tu le fais grossir, comme savent très bien le faire les journalistes, pour nous descendre à chaque fois. Okay? Ça veut dire que tu prends une image qui peut être dure, mais tu as évité volontairement de montrer ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Et avec cette image, tu vas faire vendre des mensonges pendant 10 ans, jusqu'au moment où quelqu'un va te démontrer que c'était faux, mais c'est pas grave, toute la propagande a déjà été faite, a bien sali le peuple d'Israël. Okay. C'est la même chose. Ça veut dire que tu donnes le poids à l'une seule des choses, à seulement une des choses. C'est-à-dire que tu donnes ton poids à ce degré-là et pas à un autre. C'est comme si tu étais en train de lire le texte de la Torah. Tu peux tomber dans le piège du texte lui-même et oublier le sens profond que ce texte vient t'enseigner. Tout à fait. Tout à fait, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une prophétie, exactement comme tu dis, qui aïn be'aïn yir'u. Le jour où nos yeux verront comme l'Éternel voit, eh bien, on verra la vérité. C'est-à-dire, le jour où tu auras la capacité, les yeux ouverts, de voir avec la même capacité que Dieu a de voir les choses, on a gagné le combat. On a gagné la partie. Ok. Tu avais une question? Ok. Non, c'est pas la même racine. Hiver, c'est avec un vav et ivrit, c'est avec un bet. Mais la véritable traduction de hiver en hébreu, c'est sagi naor. Sagi naor, c'est comme ça qu'on dit un véritable aveugle. Ça veut dire sagi, celui qui est au-delà de la vision normale. C'est-à-dire, il voit plus que toi. L'histoire raconte que un aveugle a invité des gens chez lui et au moment où ils sont rentrés à la maison, tout le monde s'est cogné de partout, tout le monde tombait, sauf lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de lumière, donc il aura dit, excusez-moi, j'avais oublié que vous étiez limité. Quel?
Dans ce cas, pourquoi s'il est aveugle, c'est celui qui voit le mieux, il est considéré comme mort?
C'est la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'être dans ce monde, avec les yeux ouverts, et d'arriver à voir ce que l'homme voit avec les yeux fermés. D'accord? C'est justement le degré.
Quel? Par exemple, quelqu'un qui rencontre une femme juste un soir, qui rencontre une femme, et il dit, ça y est, je vais me marier avec elle.
Okay.
Il n'a vu qu'une parcelle de tout ce qu'elle est.
N'a vu qu'une facette. Avec ses yeux. Mais avec son ressenti, il peut englober le tout.
D'accord. Ah,
ça veut dire qu'au moment où tu étais avec cette femme, tu n'as pas seulement vu son corps. Je présume que tu as parlé un petit peu avec elle, et tu te dis, mon âme ressent quelque chose d'entier avec cette femme, il y a quelque chose qui passe d'entier, que je n'arrive même pas à expliquer. Ça dépasse même ce que j'ai vu avec mes yeux. Et c'est pour ça que tu arrives à savoir que ça marche, que ça colle.
Même. Ça, c'est
ben vadaï, nous sommes tous avec des capacités de prophétie, nous sommes tous prophètes en potentiel, seulement il y a ceux qui ont développé ce potentiel et ceux qui l'ignorent. Donc si tu développes ton potentiel par l'étude, bien, tu peux commencer à entrevoir des choses que les gens ne voient pas. Quand tu vas voir un sage, pourquoi il voit de toi? Il voit de toi comme tout le monde. Il voit ton corps. Pourquoi il te dit, non, ça c'est pas bien pour toi, ça c'est bien pour toi? D'où il sait? Parce qu'il entrevoit, il voit plus loin. Il voit avec les yeux du dedans.
Mais ceux qui voient justement
ça, mais pensez que l'obéité à chaque fois pour chaque famille, une femme, une semaine, ça va. Enfin, un coup de foudre, il y a plusieurs fois, quoi. C'est pas du vrai du tout.
Hein. Ça veut dire qu'il doit faire encore un tri dans ce qu'il voit. C'est-à-dire, ce qu'il voit n'est pas véritablement trié. Il est encore sous la domination de ses instincts de pulse, de pulsif, qu'un impulsif. Mais ce n'est pas encore réellement une vraie vision. Ça s'apprend. Il y a des écoles de prophétie. On apprend à devenir prophète. La yeshiva, c'est une école de prophétie. Vous apprenez à être à l'écoute de votre intériorité. Et à savoir recevoir les vrais messages de la vie. Et ne plus juger les choses par rapport à leur superficialité. C'est-à-dire quand tu vas acheter une voiture, tu ne vas plus l'acheter parce que elle est belle, parce que la couleur est belle, et parce que tu as vu que c'était une pub à la télé et que ça marchait bien. Tu vas savoir le secret de cette voiture. C'est-à-dire un mécanicien qui achète une voiture, il l'achète avec plus d'intelligence qu'un type qui ne connaît rien. On est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il a étudié la mécanique, tout simplement. Mais c'est la même chose. Quand tu as étudié la Torah, tu appréhendes la vie avec un autre œil. Un œil de l'intérieur et pas seulement l'œil de la superficialité que tout le monde a dans la rue. Et donc tu commences à voir les choses avec un autre œil. Et quand ton copain de France va venir, il va te dire « Mais c'est quoi ce pays ? Tout est crade ici. » Eh bien, ça veut dire qu'il ne voit qu'avec ses yeux de l'extérieur. Et toi, tu dois lui répondre. C'est parce que tu n'as pas pénétré le sens profond de cette terre. Et donc tu t'arrêtes à la première vision. À quoi ça ressemble ? Au premier rendez-vous avec une copine, avec une femme, qui malheureusement elle est tombée dans un trou d'égout, la pauvre, juste avant d'arriver au rendez-vous. Mais c'est une très belle fille. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes ? Ça sent mauvais, elle est venue avec des vêtements tout pourris, elle a les cheveux tout sales, et tu te dis, moi je pourrais jamais sortir avec celle-là. Seulement dans un mois, tu la vois avec ton copain, et tu la vois habillée, maquillée, et comme elle était réellement, dès le départ, mais toi tu n'arrivais pas à voir ça, et tu vas te morfondre toute ta vie. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il faut savoir voir les choses, et pas au premier degré seulement. Le premier degré est trompeur, est tronqué. Et il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège.
Cette capacité prophétique dont vous parlez, elle est réservée uniquement en Israël ou aussi,
Non, il y a aussi des prophètes des nations du monde. Mais au niveau collectif, peuple, c'est le peuple d'Israël qui a reçu la mission d'être la prophétesse du monde. Ça veut dire au niveau collectif, nous sommes les prophètes de toutes les nations. Mais au niveau individuel, il y a des hommes des autres nations qui peuvent atteindre des degrés de prophétie, Bilam, par exemple. D'accord ?
C'est un degré autre par rapport au degré.
C'est une autre fonction. Encore une fois, on ne sépare pas, on différencie. D'accord ? Amavdil ben Israël la Amim. Tu dois faire la différence entre Israël et les peuples, mais pas la séparation entre eux. Donc, j'ai pas dit maintenant meilleur ou pas, je ne parle pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, c'est tel rôle et tel rôle. C'est-à-dire le goy a un rôle dans ce monde, et le juif a un autre rôle dans ce monde. Vehu, je suis à la fin de la troisième ligne, Vehu kefel kiflaim letushia velibracha. Et celui qui arrive à cette vision profonde, dont on est en train de parler, et qui, vous comprenez bien, est lié maintenant, forcément, au titre, à la terre d'Israël, celui qui arrivera à voir la terre d'Israël avec les yeux de l'intérieur, et non pas seulement avec les yeux de l'extériorité, eh bien ça devient kiflaim letushia. C'est une expression en hébreu qui veut dire tu vas doubler ta possibilité d'être inventif et sortir de n'importe quelle situation et voir la lumière qui se cache dans chaque degré négatif qui se trouve devant toi. Velivracha. Qu'est-ce que c'est, bracha ? Pas la bénédiction, mais le lien. C'est-à-dire que tu vas faire le lien entre les choses. La véritable traduction de bracha, ce n'est pas bénédiction, mais lien. Tu vas commencer à faire le lien. Par exemple, le genou. Comment est-ce qu'on dit genou en hébreu ? Berech, c'est la même racine que beracha. Pourquoi on l'appelle genou ? Parce qu'il fait le lien entre la partie d'en bas et la partie du haut. Donc il est un interface entre deux parties. Si vous voulez un jeu de mots en français, entre le je et le nous. D'accord ? Ça veut dire que si tu as mal au genou, c'est que tu as un problème de couple. Tu sais pas gérer le « je » dans ton couple et le « nous deux ». Donc tu as un problème de « je » « nous ». Ou me'achar, « shekol ma shelo nitgashem ba'olam hazeh, nish'ar betzivyon kotcho kemush shehu ba'meromim. » Et puisque tout ce qui n'a pas été manifestement manifesté, matérialisé dans ce monde, est resté Betzivion Kotcho Kemoshu Bameromim. Il est resté avec sa qualité première, telle que Dieu l'a créé. J'explique avec des mots plus faciles. Le Rav est en train de nous dire, sache que pas tout ne s'est concrétisé au niveau matière. Il y a des éléments que Dieu a laissés au niveau caché de la matière. Et donc, les choses qui ne se sont pas manifestées, ne sont pas matérialisées, eh bien, elles sont restées encore beaucoup plus proches de leur source. Autrement dit, ce qui s'est matérialisé s'est éloigné plus de sa source. Mais il y a des choses qui ne se sont pas matérialisées. Donc, ces choses-là sont restées bien, bien, bien proches de leur source initiale, comme elles sont dans les mondes supérieurs. La chaîne. Et c'est pour cela, dit le Rav, tous ceux parmi nous qui veulent se rapprocher du divin, vous voulez vous rapprocher de Dieu? Vous voulez vous rapprocher des valeurs divines? C'est ce qu'ils veulent toute leur vie, c'est pour ça que vous êtes à la yeshiva. Vous avez envie de comprendre les données telles que Dieu les voit. Eh bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut d'abord qu'ils aient le mérite de voir toute chose dans ce monde avec une vision secrète. Autrement dit, il faut apprendre à voir le secret des choses, l'âme des choses et non pas seulement leur corps. Et quand tu auras rencontré donc cette fameuse jeune fille, ne regarde pas seulement son corps, regarde son intériorité, ses vertus, sa neshama. Est-ce qu'elle te convient? Même si au niveau physique, il y a peut-être un degré qui ne te plaît pas complètement, mais si il y a tellement de force au niveau intérieur, eh bien ça vaut le coup. Ok.
Quand vous dites que pas tout ne s'est concrétisé au niveau de la matière, okay. Ça reste abstrait quand même. Parce que
tout à fait.
Vous n'avez pas à voir de quoi vous comprendre.
Justement, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir. Donc ça doit rester abstrait.
Mais de quoi il s'agit? Parce que je...
La Neshama, par exemple. La Neshama ne s'est pas concrétisée en devenant une matière. Elle est restée esprit. D'accord? Donc la Neshama est beaucoup plus proche de sa source que le corps qui, lui, c'est la même lumière au départ, mais qui s'est un tout petit peu plus éloigné jusqu'au moment où il est devenu matière. Nefesh, c'est une partie de la Neshama, c'est la partie basse. Nefesh, c'est la partie basse de la Neshama. La Neshama contient 5 degrés. Donc, le premier degré est un degré ultime, et le dernier degré s'habille dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle l'âme vivante. Okay? Pour mieux expliquer, la partie la plus basse de la Neshama s'habille dans le foie. La partie un tout petit peu plus haute de la Neshama s'habille dans le cœur. La troisième partie de la Neshama s'habille dans le cerveau. Et il y a encore deux parties de la Neshama qui sont en dehors du corps humain, comme une enveloppe, comme une aura autour du corps. Donc ça veut dire qu'elles sont tellement élevées qu'elles n'arrivent même pas à s'habiller dans de la matière. Donc nous avons le Nefesh dans le foie, nous avons le Ruach dans le cœur, nous avons la Neshama dans le cerveau, et nous avons deux degrés, Chaya et Yechida, qui se trouvent au-delà de notre corps, c'est-à-dire tellement grandes qu'aucun ustensile ne peut les contenir. C'est ce qu'on a dans le Tania. Le Tania, rappelle, c'est une partie du Zohar. Tout à fait. Nefesh dans le foie, Ruach dans le cœur, Neshama dans le cerveau, Chaya et Yechida, ce sont deux enveloppes, l'une au-dessus de l'autre. Chaya, proche de nous, Yechida, très 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 élevé. C'est-à-dire, ce sont des degrés que l'homme, un jour, devrait intégrer en lui, ces deux degrés. Seulement s'il élargit son ustensile, sa capacité à recevoir. C'est-à-dire, un jour, je devrais avaler ces deux parties qui me dépassent. Et alors on me donnera deux autres. Autrement dit, j'ai élargi mon potentiel de réception et je suis capable de capter même ces deux degrés qui me dépassent. Le dernier degré, Yechida, c'est le degré qu'aura le roi Mashiach. Okay? Et chacun de ces 5 degrés, lui-même, est composé de 5 degrés. Ça veut dire que nous avons en réalité 25 degrés dans la Neshama. Et le Hari Akadosh, le Harizal, nous dit que la plupart d'entre nous n'est même pas arrivé aux deux premiers degrés des 25. D'accord? Donc on a beaucoup de boulot. Chaque fois que tu acquiers un autre degré, tu t'élargis. C'est pas que tu grossis, hein? Tu t'élargis, ça veut dire que tu vois le monde avec un œil encore plus intérieur. Parce que tu as capté quelque chose de l'ordre de l'intériorité et tu évolues dans ta vision de l'extérieur vers l'intérieur. Okay? Le schéma général est simple. Nous sommes sortis du jardin d'Éden avec la faute du premier homme. Et tout le système, c'est d'y revenir. L'humanité tout entière tend à revenir au jardin d'Éden. D'accord ? Donc, l'un des accès au jardin d'Éden, c'est d'abord en tant qu'Israël, revenir sur la terre d'Israël. Sans cela, tu ne peux pas pénétrer le jardin d'Éden. Encore une fois, parce que tu dois réaliser ton retour sur trois niveaux. Le temps, l'espace et l'homme. Je dis des choses très claires et très saines. Ça doit être normalement être sans aucune question presque. Ken.
Comment on peut faire un retour sur l'espace et sur l'homme? Comment on peut faire un retour sur le temps?
Eh bien, avec la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est un retour dans le temps. Puisque tu as fauté mardi dernier et tu fais tchouva.
Ce n'est pas un retour sur l'homme.
Non. C'est un retour vers la situation que tu as connue la semaine dernière. Tu arrives à voir cette case et en réalité, à la corriger, à revenir. Le retour de l'homme, c'est en fait revenir vers ton identité première telle que Dieu t'a créé. Telle qu'il t'a voulu. Telle que tu étais dans la matrice première. Dans le modèle. D'accord ? Donc la tchouva, elle est toujours triangulaire. Il faut revenir au niveau de l'espace. Il faut revenir au niveau du temps. Il faut revenir au niveau de l'homme. À chaque fois, tout ce que je vous dis, c'est toujours par trois. Obligatoirement. D'accord ? C'est ça la teshuva, c'est ça la protection. Sinon, tu tombes dans la faute. Qu'est-ce que c'est la faute? C'est perturber ces trois degrés. Quels sont ces trois degrés? Encore une fois, l'espace, l'homme et le temps. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? Quelle lettre?
Shin.
Shin, y'a fait. Ça veut dire que tout ceci se corrige dans la lettre Shin. Et si tu ne sais pas trouver le repos, comment on dit se reposer en hébreu? La noir. Okay, ça vous rappelle un acteur de la Torah?
Noir.
Donc écrivez noir. Comment on écrit noir? Nunchet. D'accord? Seulement s'il tombe dans la lettre Shin, ça devient Nachash, le serpent. Donc la faute du serpent, c'est tout simplement quelqu'un qui a perturbé son Shin. Et corriger son Shin, c'est devenir en fait un homme fils de ces trois degrés. Okay? Ou la fille de ces trois degrés. Comment on dit la fille? Bat. La bat de Shin, comment tu dis? Shabbat. Donc Shabbat, c'est le retour au niveau temporel de la correction de ce 3 degrés. Et après, vous pouvez extrapoler l'arche de Noé. Donc maintenant, c'est l'arche de la tranquillité. Tevat Noach, la boîte tranquille. Ron, de combien d'étages elle est composée? 3, par hasard. Bizarre quand même. C'est-à-dire que l'arche est obligatoirement 3 niveaux. Obligatoirement. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'elle doit réaliser une correction triangulaire. Donc à chaque fois que Dieu se dévoile dans notre monde, il se dévoile par un degré triangulaire. Combien de fêtes nous avons dans l'année?
3.
Shalosh regalim. Shlosha regalim. Qu'est-ce que c'est regalim en hébreu? Des pieds. Ça veut dire Dieu descend dans notre monde par un trépied. Justement, parce que le chiffre 3, c'est l'équilibre parfait. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. c'est-à-dire une chaise à 3 pieds est beaucoup plus stable qu'une chaise à 4 pieds, contrairement à ce qu'on croit. J'ai pas compris que... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu ne vois pas le rapport avec noir. Noir, c'est toi. Tu t'appelles noir dans des moments où il y a des paniques autour de toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. La panique autour de toi s'appelle le déluge. Tu as des périodes comme ça dans ta vie où tu as des déluges? Bien fait. À chaque fois que tu as un déluge, qu'est-ce que tu cherches? Ton noir. C'est-à-dire à rentrer dans une boîte pour te trouver une repos, laisser la vague passer. Tu as compris maintenant? C'est toute une allusion. Ok. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quel? Il y a des questions. Il y a fait Mehod. Et chaque fois que, même dans la paracha de la semaine dernière, tu parles de Lech Lecha? La même chose dans Vayera. Quand Kadosh Baruch Hu, quand Avraham est en train d'avancer, il faut qu'il se passe 3 jours pour qu'il voit. Et combien de parties nous avons dans notre peuple? 3. Dis-les. Cohen, Lévi, Israël. Les initiales, c'est Keli, c'est-à-dire un ustensile. D'accord? La Torah a été donnée quel mois? Non. Sivan. C'est quel mois dans l'année, Sivan? Le 3e. Nissan, Iyar, Sivan. Par quel enfant elle a été donnée? Le 1er, le 2e ou le 3e? Le 3e. Ça veut dire que Moshe, c'est le 3e fils. Avant lui, il y avait Myriam et Aaron. Vous voulez que je continue? La Torah elle-même, elle est composée en combien de parties? 3. Torah, Nevi'im et Ketuvim. Tout le Tanakh. D'accord? Slicha? Nachon, les 3 malachim qui sont en réalité Avraham, Yitzhak et Yaakov eux-mêmes. Ken, nachon, nachon, nachon. Ken? Et donc, à partir du 3, il y a en fait, jusqu'au 3e jour, on appartient à quel Shabbat? Jusqu'au 3e jour. Il y a fait. À partir de mercredi, donc le switch, c'est mardi soir. On commence déjà le Shabbat d'après. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a 3 jours. C'est obligatoire. Par exemple, il ne peut pas y avoir un éloignement entre nous et Dieu de 3 jours. Car s'il y a un éloignement de 3 jours, c'est difficile de combler le vide. Et c'est pour ça qu'on va sortir la Torah tous les... maximum tous les 2 jours. On peut pas, il ne peut pas y avoir 3 jours de vide. Vous comprenez? C'est tout un système. Ça veut dire que l'éloignement de 3, c'est un éloignement qui coupe le lien. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui s'est dit qui a divorcé, une femme qui a divorcé ne peut pas se marier avant 3 mois avec son nouveau mari, et ainsi de suite. Slicha? Oui. Non, il n'est pas coupé. Il est fait d'une autre manière. Jamais le lien est coupé. Si tu ne mets pas les tefilines réellement, physiquement, c'est que tu les mets d'une autre manière. Je vais t'apprendre un chidouche. Même Shabbat, tu mets les tefilines. Mais d'une autre façon. Car le mot tefilin veut dire lien, l'ilpot, l'effet, ptil. Ptil veut dire une mèche. Tfila, la prière, c'est la même chose. Tous ces mots en français qui veulent dire plein de choses qui ne veulent rien dire, mais en hébreu c'est toujours la même chose. Que tu dises tfila, tfilin, ptil, ptila, l'ilpot, tout ça c'est relié, 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 relié de différentes manières. Donc la tfila n'a jamais été une prière, elle a été une mise en lien. C'est ça la véritable traduction du mot tfila. Je me mets en lien avec Dieu. D'accord? Avec l'infini. Donc, ceux qui veulent arriver à ce degré-là doivent voir les choses avec istaklut razit. Qu'est-ce qu'on nous avons dit? Qu'est-ce que c'est istaklut razit? Une vision des secrets. Quel est le mot ici, secret? Raz. Vous saviez que ça veut dire secret? Ok, maintenant vous le savez. Raz, c'est le secret. Le mot Zohar, c'est Zraz, avec un He. C'est la même chose, ça veut dire la Torah des secrets. Slicha? Sod, c'est un autre degré de Raz. Il faut comprendre aussi la différence, mais ce n'est pas le moment. Quelle est la valeur numérique de Raz? 207. Exactement comme Or, la lumière. Donc la lumière et le secret, c'est une seule et même chose. Donc la lumière... dans notre monde, c'est l'élément le plus spirituel du monde matériel. Vous êtes d'accord? Dans le monde matériel dans lequel nous sommes, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus d'esprit. Mais c'est toujours de la matière. Et pourtant, pour nous, ça devient de la lumière. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose de l'au-delà, on compare ça à de la lumière. C'est tout. C'est parce qu'on n'a pas d'autres références, on n'arrive pas à savoir autre chose. Donc le Rav Kook va écrire ses livres, va les appeler des lumières, Orot. Parce qu'il est en train de t'enseigner une Torah secrète, habillée dans des vêtements de langage courant humain. Ok. C'est bon? Ok. Donc il faut apprendre à voir les secrets dans chaque chose. Reuim Hema, et ceux qui arrivent à voir ces secrets, à étudier profondément leur Torah, à ne pas rester au premier degré de la Torah, eh bien Reuim Hema, ceux-là sont, qu'est-ce que c'est Reuim? Digne de Shetitzlach Aleem Ruach Hashir Milemala Shei Kula Emet, que le chant du souffle supérieur se repose sur eux. C'est-à-dire, il y a ici un langage poétique, mais c'est en même temps des codes, c'est-à-dire que ceux qui arrivent à voir avec l'œil de l'intérieur, l'œil du secret, eh bien, la divinité se dépose sur eux et ils commencent à entendre en réalité le chant d'un monde supérieur, d'un monde intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce chant intérieur? C'est le chant de la vie. Ils n'arrivent plus à voir les choses petites. Ok? Tu arrives à entendre les chants du cosmos tout entier, le chant, le rythme, j'allais dire, de chaque chose. Donc à chaque fois que ce rythme est perturbé, tu te sens mal. D'accord ?
Jusqu'au cosmos, il y a 7 niveaux.
Peu importe. Non, il n'y a pas 7 niveaux jusqu'à Hachem, il y a des milliards de niveaux jusqu'à Hachem.
Il y a
7 mondes, mais chaque monde est rempli de plein de degrés. Jamais on touchera. Jamais. Jamais on pourra comprendre ni être lui. Jamais. On est toujours en complétude, on ne sera jamais complet. D'accord? Il n'a pas mangé une pomme, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il a mangé le fruit, oui. C'est ce que le serpent lui a dit. C'est-à-dire la partie en lui qui ressemblait au serpent. Alors chacun de nous a cette partie qui ressemble au serpent qui lui dit « Tu peux être aussi grand que lui, qui c'est lui ?»« Mange, profite !» Qu'est-ce que c'est manger dans ce monde ?« Intègre, mange, bouffe, kiffe la life, okay, kiffe la vie, fais ce que tu veux !» Exactement. Exactement. Le serpent, c'est une merveille. Tout à fait. Si le serpent... Tout à fait. Le serpent, c'est le meilleur serviteur qui devait être pour l'homme. Seulement, au lieu de servir l'homme, il s'est servi de lui. Quelle est la valeur numérique du serpent? 358. C'est la même valeur numérique que qui? Que le summum que tu puisses devenir un jour. Mashiach. Okay. Mashiach, c'est la même valeur numérique que le serpent. Vous savez que la valeur numérique, c'est le poids des mots, le poids des lettres. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est quoi? C'est un serpent arrangé. C'est-à-dire c'est la force du serpent qui a été corrigée. C'est l'homme qui domine le serpent, et non pas le serpent qui domine l'homme. Ok. Et d'ailleurs, le Kohen Gadol portait sur son pectoral le... Comment ça s'appelle en hébreu? Le Choshen. Choshen, c'est les mêmes lettres que Nachash. Ça veut dire un serpent corrigé. D'accord? Donc nous devons tous corriger notre serpent. Attention, le serpent, c'est pas le petit reptile que vous croyez. C'est la force en nous. C'est une partie de l'homme qui s'appelle le Nachash. Et tu dois faire en sorte que ce ne soit pas lui qui mange l'homme qui est en toi, mais que l'homme que tu es domine le serpent qui est en toi. C'est la belle et la bête. D'accord? Vous connaissez la belle et la bête? Donc la belle, c'est la Neshama, et la bête, c'est le serpent. C'est tout. À qui tu donnes la force? À la belle ou à la bête? Caïn et Hevel. À chaque fois, c'est le même couple qui revient sous d'autres formes. Changer les X et les Y, c'est la même fonction. Caïn et Hevel. Qu'est-ce que c'est Caïn? Qu'est-ce que c'est Caïn en hébreu? À part le nom d'un type. Non? Non, pas Caïn. Caïn. Ça vient du mot Kinyan, l'iknot. Acheter, c'est-à-dire le monde matériel. Aujourd'hui, Kenyon. Et tu vas au Kenyon? Caïn, voilà. Qu'est-ce que c'est Hevel en hébreu? Le souffle, pas Hevel avec un Aleph, avec un He, Hevel, le souffle, c'est-à-dire l'esprit. Donc Caïn et Hevel, c'est quoi? L'esprit et la matière. Si Caïn tue Hevel, vous comprenez que qui a tué qui? La matière a tué l'esprit. Vous comprenez? Donc arrêtez de voir la Torah comme une bande dessinée. Ce sont des codes que la Torah habille dans des acteurs. Et tous ces acteurs de la Torah, il faut savoir les décoder. Mais si tu restes au niveau de l'histoire, eh bien tu grandiras et tu resteras toujours avec la même histoire que Adam et Ève, ils se baladaient avec des feuilles de vigne ou de machin pour se cacher leur nudité à travers les arbres et derrière les machins. Okay. Ça, c'est bien pour des petits-enfants et même là-bas, c'est dangereux. Même les petits-enfants, il ne faut pas leur enseigner la Torah de cette manière-là. Faire très attention. Sinon, on tombe dans une dégradation totale de notre système divin. D'accord? C'est ce que le Rav est en train de nous dire. Attention de lire la Torah avec un œil de l'intériorité, ce que nous essayons de faire pendant ce cours. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner en réalité les codes pour décoder le texte. Ok? Donc quand vous dites Bereshit bara Elohim et Shamaim ve et Haaretz, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Shamaim et Eretz. Qu'est-ce que c'est Shamaim et Eretz? Shamaim, c'est pas le ciel seulement, mais les cieux, c'est-à-dire le monde de l'esprit. Et Eretz, c'est le monde de la matière, le désir de recevoir. Eretz, c'est la racine du mot Rotze. Donc Dieu a créé en fait l'esprit et la matière. Tu comprends? Tout est décodé. Et quand tu laisses la matière sans l'esprit, Ve'aretz haïta tohu vavohu, elle devient tohu bohu, parce que la matière, si elle n'est pas remplie d'esprit, elle est tohu bohu, c'est-à-dire elle est en désordre total. Et la force, c'est la remise en ordre des choses. C'est la matière de la bria. Dans chaque niveau, si. Dans chaque niveau, il y a la matière du niveau en question. D'accord? Tu es d'accord ou pas? La matière, c'est pas seulement ce bic. Okay? Regarde, je suis en train de te parler. L'esprit, c'est mon ciel. Et les mots qui sortent de ma bouche, c'est la matière de cet esprit. Et pourtant, cette matière est encore spirituelle. Mais par rapport à l'esprit, c'est déjà une matière. Tu comprends ce que je suis en train de dire? En référence, en yachas, c'est-à-dire en relativité, eh bien, il y a esprit et matière de chaque niveau.
Le langage, ce sens, c'est la matérialisation de la
vie. Bien fait. Et pourtant, c'est encore de l'esprit. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes avec moi ou vous m'avez largué? Vous essayez? Top, c'est bien.
Pourtant, c'est matériel, il y a des couches qui se superposent. Enfin,
tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que ce qui est matériel aujourd'hui est esprit pour un autre degré plus inférieur. Je vais vous raconter une histoire. Les élèves du Baal Shem Tov, quand ils allaient Rosh Hashanah faire le Tashlich, vous connaissez le Tashlich? Ils attendaient que le Baal Shem Tov finisse son Tashlich et dès qu'il partait, ils rentraient tous dans l'eau. Alors le Baal Shem Tov était en train de les voir et qu'est-ce que vous faites? Il dit, ben, tes fautes à toi, ce sont des mitzvot pour nous. Vous comprenez? Tout est relatif. Donc, quand toi tu as jeté tes fautes, moi je les veux ces fautes-là. Donne-moi. Parce que tes fautes par rapport aux miennes, c'est déjà le ciel. Ok? Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Et là,